Canalem, on aime l'été.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Officiellement entré dans l'univers du mois d'août 2018, mercredi 1er août, également une journée un peu pluvieuse aujourd'hui, mais l'été encore au moins pour la prochaine heure et demie. Emmanuel Robitaille avec vous encore aujourd'hui, oui, accompagné de...
François Baruel.
Exactement. J'allais dire cette semaine, mais je me rends compte que je suis ici beaucoup plus qu'une fois par semaine. François, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui à l'émission?
Ah ben aujourd'hui à l'émission, on voyage sur toute la planète pour découvrir des initiatives communautaires et sociales qui améliorent le monde. Il sera question de la 31e édition de Défi Vision de la Fondation MIRA.
Et François, tu nous gardes en appétit s'il nous reste de la place en nous parlant des excès alimentaires de l'été. Et après avoir parlé d'excès, on parle véganisme avec Sophie Lecomte.
Un tour d'horizon sur les journées mondiales et internationales célébrées cette semaine. Et Daniel Lachance se questionne encore sur la fameuse musique d'été.
Bienvenue à Aime l'été.
Avant que la nature nous confonde, juste un petit geste pour changer moi. C'est l'argent, faudrait qu'on arrête les paiements. Avant que l'air qu'on puisse respirer ne s'achète qu'au supermarché. Et si vous cherchez des réponses, dites-vous que juste un petit geste peut changer. Quand l'industrialisation a fait son apparition, c'est pas que notre existence tournerait un jour autour des sens. Et beaucoup d'hommes sont venus nous prêcher toutes ces vertus, et leur vérité prétendue nous a tous laissés sur le cul. Mais si vous cherchez des réponses, dites-vous que juste un petit geste peut changer le monde. Changer le monde, changer le monde, changer.
Nous venons d'écouter Le Respectable, un petit geste pour changer le monde. Alors Emmanuel, justement, pour changer le monde, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut faire tellement, tellement de choses et on le sait qu'un petit geste de gentillesse et de générosité peut déclencher une vague de mains, un mouvement donné au suivant, là, disons-le comme ça. Et aujourd'hui, je vous parle d'initiatives communautaires, institutionnelles, sociétales. Préfères-tu sociétal ou social?
Sociétal, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus global.
Exactement. Donc, sociétal, qui font la différence. On se promène dans le monde et on espère un petit peu s'inspirer parce que des idées, ça se ramène encore mieux que des cadeaux souvenirs quand on voyage. On se comprend. Et on commence au Wisconsin. Il y a une initiative au Wisconsin qui fait diminuer significativement les appels faits au 911 par les personnes atteintes de maladies chroniques. C'est une initiative qui provient d'un constat du département des pompiers de Milwaukee en 2015 qui se sont rendus compte que 7% des appels reçus pour des raisons médicales d'urgence, là, dans la dernière année, ça provenait des 100 mêmes personnes. C'est 4300 appels sur 63 000 qui provenaient des 100 mêmes personnes.
C'est un abonnement.
Et là, on s'est dit, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'on fait pas ou qui se passe, qui est pas là pour eux, qui pourrait être là.
Ouais.
Donc, c'est que quand on est atteint de maladies comme le diabète, l'asthme, des troubles pulmonaires de toutes sortes, on repasse toujours par le même processus quand les crises arrivent puis les symptômes s'aggravent. On se comprend et c'est toujours très, très... Même sur le plan cardiaque, puis on s'entend, faut pas attendre. On se comprend. Et le département a eu l'idée de mettre sur place le programme avec un très court nom, entends-tu mon sarcasme? Il s'agit du programme de soins paramédiques communautaires intégrés mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est un groupe qui emploie des gens indépendants, des paramédics, spécialement formés pour prendre en charge ceux qui vivent avec une condition médicale chronique avant qu'ils aient besoin de composer le 911. Donc, c'est 34 paramédics qui vont évaluer la santé et les maisons des patients pour mettre en place des méthodes préventives de soins pour éviter que ces gens-là se rendent aux urgences. 300 personnes ont participé au programme gratuitement depuis sa mise sur pied en 2015. Mm-hmm. Et la question qu'on se pose tous, ça marche-tu?
Oui, ben oui.
c'est le fun des idées, mais ce serait fun qu'ils marchent.
Ben, j'imagine que ça marche.
Ben, concrètement, c'était 26 % moins d'appels au 911 qui ont été répertoriés pendant la période d'essai du programme. Mmh. Et en 2016, ce chiffre-là est monté à 56 % moins d'appels. En 2017,
ouais.
62 % moins d'appels au 911 pour des raisons médicales en raison des conditions chroniques qui sont effectuées. Et ça, c'est phénoménal. On est presque rendu aux trois quarts. Je veux dire, et les gens sont moins malades, engorgent moins les hôpitaux. Donc, on sauve sur le plan économique également, tout en allant vers ces gens-là de manière préventive et proactive. Donc, bravo à ces gens du Wisconsin. Je rappelle que l'idée est de ramener l'idée, hein?
Ouais.
Si ça peut donner l'idée à quelqu'un, gâtez-vous, n'hésitez pas. C'est toujours comme ça qu'on change le monde, une idée à la fois. Lyft, maintenant. L-Y-F. C'est une compagnie qui offre des transports gratuits pour les personnes atteintes de cancer qui doivent se rendre à l'hôpital. C'est fantastique parce que les traitements pour le cancer, ben, ils sont prenants, sont fréquents. On a décidé d'aider les personnes qui ont déjà à faire face à la maladie à pu se casser la tête par rapport à savoir comment y avoir accès puis comment se rendre. Parce qu'à un moment donné, ça peut être lourd et difficile. L'entourage n'est pas toujours
présent
et disponible 24/7, on se comprend, là. Donc, en partenariat avec l'American Cancer Society, je sors mon anglais, c'est so bilingual mon affaire, Lyft a mis sur pied l'initiative Road to Recovery ou Sur la route de la rémission qui dessert actuellement plus de 12 villes des États-Unis, dont Miami et Las Vegas. Et je me suis posé la question en lisant ça, et ici, c'est quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et bien, la Société canadienne du cancer a mis sur pied le programme Les roues de l'espoir, qui se divise en deux volets, soit transport par bénévole ou un transport par la famille. On veut bien sûr aider les patients atteints de cancer qui présentent des difficultés supplémentaires, soit sur le plan financier, physique ou émotionnel, à avoir accès au traitement plus facilement. Par contre, il y a un coût unique de 100 $ qui doit être versé pour entrer dans le programme et avoir droit au service. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce service-là ou si vous-même vous vous sentez interpellé, vous pouvez aller visiter le site web cancer.ca dans l'onglet « Support et services » pour plus de détails. C'est quand même...
C'est fantastique.
Très bien. Ah, tout ouais, à fait. Tout ouais, à fait. Ouais. On voyage à Denver maintenant? Denver,
quel
ville
voyage.
Du rock, c'est ça?
Oui.
C'est ça, hein? C'est pas ça? Hey, Jean-Seb me joue. Jean-Sébastien à la régie, je te salue. C'est pas Denver, ville du rock.
Détroit.
C'est
Détroit.
Ah, mais d'accord.
Voilà.
Tu m'as tellement jugé sévèrement. Ça commençait par D. On ne s'ostinera pas pour une coupe de lettres. Détroit, ville du rock. Bon, ben Denver, on va l'appeler ville d'initiative. Parce que cette ville-là s'assure qu'aucun enfant n'aura faim en donnant des repas gratuits pendant tout l'été. C'est le Summer Meal Program qui est annoncé pour plus de 60 écoles publiques qui offrent des déjeuners et des dîners gratuits aux enfants âgés de 18 ans et moins. Et ce programme-là veut s'assurer que tous les élèves qui fréquentent ces écoles-là et qui dépendent malheureusement trop souvent de l'établissement pour avoir des repas nutritifs, c'est le cas de plusieurs enfants dans plusieurs familles, ben qui continuent à y avoir accès même en congé scolaire. Et même les parents ont droit à de l'aide, ayant accès à des déjeuners à 2 $ et des dîners à 3,50 $. Et c'est ce que veut faire la commission scolaire de Montréal hein, pour les 74 000 élèves du primaire et du secondaire qui y étudient. C'est un projet qui est déposé au ministère de l'Éducation, qui a été déposé au ministère de l'Éducation en juin dernier. Et ces repas-là sont prévus durant l'année scolaire toutefois, mais quand même, les ressources financières pour mener à bien ce projet-là sont en cours d'évaluation. Et en Alberta, il y a un projet pilote qui a été mis sur pied en 2016 et 2017 pour offrir des repas gratuits dans une trentaine d'écoles. Ils ont servi 5 000 repas par jour. Et leur financement a été haussé pour l'année 2018, ce qui augure assez bien, c'est bien reçu, ça veut dire, par les programmes, par les ministères, par les décideurs et aussi parce que
tout le monde suit.
Ça fonctionne. Donc, c'est à suivre pour nous aussi. D'ailleurs, Denver s'est également démarqué en initiative communautaire pour les itinérants cette fois. La ville a engagé 284 personnes en situation d'itinérance qui ont été rémunérées pour un jour de travail pour la ville elle-même. Et on a plusieurs plateformes de travail équivalentes ici au Québec et dans la ville de Montréal même. Mais simplement pour nommer que cette fois-ci, sur les 284 personnes employées dans la ville de Denver, cette journée-là, 110 d'entre elles se sont trouvées un emploi stable suite à cette journée-là. 110 nouveaux emplois ont été créés. Donc, il y a 110 personnes qui sont sorties de la rue et je trouve ça absolument fantastique.
Tout à fait.
I might be tired, I might
la festive formation australienne The Cat Empire avec la pièce The Car Song, tirée de leur deuxième album Two Shoes. Si vous aimez ce genre de musique, la musique festive, la musique joyeuse, un mélange de jazz, de musique du monde, de ska, de reggae, de rock, de plein de choses, c'est une formation qui est vraiment agréable à voir en spectacle si jamais vous en avez l'occasion.
Je vais tellement à ton sens, Jean-Seb. C'est une formation qu'on a eu la chance de voir en spectacle, toi et moi, à des endroits différents, mais toujours très... ils sont comme neuf sur la scène, si je me trompe pas.
Ah si, c'est pas plus des fois.
Ils sont incroyables, c'est multi-instrumental, c'est excellent, on vous le conseille fortement. Ce qu'on vous déconseille un petit peu plus, par contre, ce sont les excès en tout genre. Même le bouddhisme le dit, la balance et l'équilibre, c'est la voie à trouver pour tout être humain. Mais l'été, sur le plan alimentaire et de la boisson, parfois, c'est difficile, François.
C'est difficile, parce que c'est vrai que l'été, tout nous pousse à profiter de ce moment, en fait. C'est une partie de l'année où on peut être en vacances, où on peut... être dehors beaucoup.
On est comme des ours qui sortent de notre...
Qui sortent de notre caverne.
Oui, exactement, voilà. Exactement. Et là, rien ne peut nous arrêter.
Voilà, rien ne peut nous arrêter, exactement. Tu crois que c'est du craving?
Peut-être.
Et de faire... Alors donc, on fait comme une fin de semaine, mais tout le long des vacances. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre des amis, on s'amuse, on boit, on mange avec eux. Alors le gros problème, d'abord, c'est la quantité, puisqu'on passe son temps... Ce sont des moments de farniente. Et de fait, alors on mange beaucoup, on boit beaucoup, bien sûr. On se laisse aller à manger au-delà de la satiété, par pure gourmandise. Ou bien parce qu'on est avec des copains. Ou bien tout simplement parce que c'est social, on reçoit des gens.
C'est ce qu'on dit. La satiété, c'est le signal dans notre cerveau qui nous dit « c'est beau, t'as plus faim ». Ça, c'est même pas un critère.
Non, l'été, c'est pas un critère. L'été, ça n'existe plus.
C'est ça.
Donc, les repas, ils finissent par s'allonger tout le long de la journée. Mm-hmm. Alors, on boit beaucoup, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier la bière, bien sûr. C'est 430 calories par litre, la bière. Ça fait beaucoup. On en boit beaucoup plus que d'habitude. Mm-hmm. Ou du vin, 650 calories.
Par litre.
Bouteille.
Une bouteille de 1 litre, c'est 630 calories.
630 calories. Quand Et même. En plus, on est, en plus, l'alcool est très mal supporté quand il fait chaud. Enfin, moins bien supporté. Donc, ça rend un peu somnolent et ça rend parfois un peu agressif. Mais enfin bon, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable qu'un barbecue entre amis et chacun à son tour de s'y mettre. Et à chaque repas, il y a quoi? Il y a de la viande, il y a des saucisses, il y a des protéines animales qui sont grillées, flambées, brûlées. Et les viandes grillées au barbecue, c'est très bon quand c'est une fois de temps en temps, mais quand c'est trop souvent, ça provoque la fabrication d'acrylamides, parce que les viandes grillées, les protéines grillées, donnent des acrylamides qui sont cancérigènes pour le côlon. Les acrylamides. Donc cet aspect de l'excès des vacances avec trop de barbecue grillé, c'est pas très bon. Mmh. Et surtout s'ils sont fréquents, si c'est tous les jours. Donc il y a des composés des oxydants qui provoquent une inflammation de la muqueuse intestinale, et on connaît tous les méfaits des inflammations chroniques dans les tissus mous. Donc, pendant l'été, il faut éviter.
Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes de ces des méfaits? Qu'est-ce que ça fait quand on se fait inflammer le tissu? Je vais te le dire comme ça, parce que...
D'abord, ça entraîne une colite, mais ensuite, ça peut entraîner des cancers.
Oups.
C'est le cancer du côlon, en fait. Mmh. Et la plus grande cause de cancer du côlon, c'est la stagnation des gras animaux dans le côlon.
Exactement.
Sous forme oxydée, sous forme d'oxydant et oxydé, et sous forme d'acrylamide, parce que ce sont des viandes grillées. Mm. Donc, c'est pourquoi il faut d'ailleurs rajouter toujours de la salade.
Ça nous aide à passer...
Après la viande. Bah oui, bol alimentaire fait avancer les choses.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est pourquoi il faut aussi avoir un microbiote qui soit efficace, parce que la sérotonine provoque le péristaltisme. La sérotonine fabriquée, n'est-ce pas? On l'avait vu la dernière fois.
On en a parlé la semaine dernière,
voilà,
de cette sérotonine.
Exactement, par les lactobacilles, c'est ça qui va faire le péristaltisme.
Parce que ça augmente les fluides, donc le liquide, la viscosité
ça
des parois.
Ça augmente la musculation.
Et le péristaltisme.
Le péristaltisme, c'est
et
ça,
voilà.
Le mouvement. Ça, c'est... Donc, il y a une bonne loi, il faudrait se dire une chose, c'est que pendant l'été, il faut éviter la viande. Pas par véganisme, mais par bon sens diététique médical, si on peut dire. Il fait chaud, il vaut mieux absorber des légumes froids, des salades en tout genre, qui réhydratent, qui rafraîchissent et qui facilitent le transit.
Parce qu'on en parle d'hydratation, clairement, on a plus chaud, on a envie de s'hydrater. Par contre, on ne s'y prend pas toujours de la bonne façon pour le faire. À commencer par l'alcool, on oublie souvent de boire de l'eau.
Bien sûr.
On va s'ouvrir un autre, une autre boisson au lieu d'y aller pour de l'eau.
Ben oui.
Quelque chose qui fonctionne réellement. Là.
Ben oui, mais ça fait partie des habitudes de consumérisme habituel. Hein,
mais c'est... plusieurs autres boissons aussi qui ne fonctionnent pas.
Bien sûr. Bien sûr, il y a tout ce qui est les liqueurs trop sucrées, c'est-à-dire tous les sodas. Les sodas qu'on boit et qui apportent 700 calories par litre. Il faut le savoir tout ça, il faut prendre des jus de fruits. Il faut prendre des jus de fruits sans sucre ajouté ou fait à la maison. Et puis ensuite, il n'y a pas que ça. En fait, on peut aussi prendre du café, on peut prendre du thé. Mais faites attention, parce qu'en fait, quand on prend un café dans un second cup ou chez un tel ou n'importe lequel... Quand on prend un café latté, on prend un café latté, 255 calories. C'est énorme, parce qu'on en prend 3 ou 4 par jour. Parce que c'est très bon, ça rafraîchit, on arrive à 1000 calories, etc. Nous avons les cafés glacés au lait qui sont les moins caloriques. Alors peut-être qu'il faut apprécier le café au lait, le café avec simplement du lait, qui n'apporte que 140 calories. Il y a d'autres choses, il y a le cappuccino qui est aussi hyper calorique. 360 calories. C'est dingue, non?
Et ça nourrit absolument aucunement notre corps. Donc,
absolument
souvent,
pas.
On va couper l'après-midi avec ça à 3 heures, mais voilà. On va clairement manger après comme si on n'avait absolument rien fait. Donc, c'est comme...
C'est le deuxième repas.
C'est ça. C'est le 1/8 de notre... Je calcule vraiment mal présentement. C'est le quart de notre apport calorique dans notre journée qui sert absolument
près.
Rien.
C'est ça. Exactement. Trop. C'est exactement la même chose avec les glaces d'ailleurs, parce qu'en fait, à la fin, on prend tous des glaces pendant l'été, bien sûr, c'est très agréable. Alors, il y a toutes les crèmes glacées qui, elles, apportent à peu près un repas complet. Quand on prend un dessert avec deux boules de glace de bonne qualité, entre guillemets, mm-hmm. c'est-à-dire les plus chères, avec 20% de crème et de l'air et du sucre, etc., on arrive pratiquement à un repas.
Mm-hmm. Mais au-delà de l'apport calorique... On se rappelle que c'est notre santé qui va en écoper aussi parce que
sûr.
C'est pas des bonnes calories. Et donc, à travers ça, on se remplit le système de quelque chose qui s'élimine pas super bien.
C'est du sucre. Du sucre et du gras, c'est jamais très bon en grande quantité et brutalement comme ça.
Mais là, il y a une zone qui est très peu claire pour nous tous, en tout cas pour moi. Et je crois que certains auditeurs à la maison vont rentrer dans ma gang.
Ouais.
Les smoothies.
Ah, les smoothies. Alors là, ça c'est
juste
traditionnellement...
Juste pour nous éclairer, pour finir avec ça, parce que ça a l'air que c'est bien bon, mais ça a l'air que pas tout le temps.
Non, le smoothie, c'est un... En fait, c'est pas un jus de fruit, hein, c'est un... Ou alors, c'est un jus de fruit additionné de sa pulpe, de la pulpe du fruit,
uh-huh.
des fruits. C'est-à-dire qu'en fait, on met tout ça dans un blender ou dans un mixeur, en fait, et on rajoute du sucre, et on rajoute du lait, et on rajoute des tas de choses. Évidemment que ça aussi, ça apporte énormément de calories. On imagine que c'est quelque chose de santé, mais en fait, non. La plupart du temps, comme on met tous ces produits hyper nutritifs, c'est encore quelque chose qui est très bon. Mais quand on le fait faire, ou quand on le mange, ou quand on le boit au restaurant, c'est un repas complémentaire.
Donc, il faut faire attention de pas simplement se donner bonne conscience, mais de faire nos smoothies avec conscience. Par exemple, changer le lait pour du lait d'amande, peut-être.
Par exemple,
ajouter de sucre. Une banane, la moitié d'une banane plutôt qu'une.
Voilà.
Faire des petits ajustements comme ça.
Allonger avec de la glace pilée plutôt que de mettre du lait ou de la crème, etc.
Donc, mieux choisir nos aliments.
Mieux choisir nos aliments.
Peut-être le prendre en supplément de repas au lieu de le prendre comme une collation. Et bien sûr, tout faire ça, c'est bien, mais pas tous les jours.
Certainement pas tous les jours.
Merci François. C'est pas terminé pour nous. On va revenir dans quelques minutes, François, et on va vous parler de Mira et également de véganisme. Ça va nous donner plusieurs idées pour compenser pour le sucre et le gras.
Attends, bonne nuit.
Vous écoutez Aime l'été.
Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais j'trouve ça quétaine pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct, de toute façon il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct, de toute façon il était rendu trop maigre.
Nous avons entendu Lisa Leblanc, Kraft Dinner. Maintenant, nous sommes avec Patrick Benoît. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes animateur et chroniqueur radio et télé. Vous êtes le porte-parole de l'événement 31e édition du Défi Vision de la Fondation Mira à l'Autodrome de Granby. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le Défi Vision Mira, là, pour résumer, c'est... Je vais essayer de m'en rappeler parce que c'est une formulation que j'adore, mais qui est un peu longue et qui est assez précise. C'est la course automobile pour les personnes non-voyantes, la plus lente, mais sur la piste de course en terre battue, qui est la plus rapide au pays. Alors, c'est une course automobile à laquelle je vais prendre part comme copilote, soit dit en passant. Et ça commence à m'énerver pas mal. J'étais fébrile et là, je deviens de plus en plus anxieux. Parce que les personnes qui vont prendre le volant des véhicules sont des personnes non-voyantes. Alors, évidemment, ça peut surprendre, mais les copilotes sont là pour les guider. Mais imaginez-vous assis dans votre bagnole, au volant, les yeux fermés, et tenter d'aller quelque part, et surtout d'éviter des obstacles qui viennent de partout, là, de derrière, à gauche, à droite.
Ah oui, je comprends que c'est la course la plus lente, alors, évidemment.
Oui, oui, absolument, absolument. Et c'est pas là qu'on va améliorer notre dossier de conduite, là, pour...
Et sincèrement, ça veut dire que chaque centimètre qu'on avance dépend de ce que le copilote va envoyer comme information.
Ben, c'est ça qui commence à me rendre fou un peu. Là.
Donc, vous êtes responsable de si ça se passe bien ou pas. C'est ce qu'on comprend, finalement.
Ben, c'est un peu ça. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir... sur la route, là, je touche du bois. J'ai jamais rien eu de grave, ni même d'accrochage. Mais je sais, pour avoir fait du karting ou des trucs comme ça, que on n'a pas besoin d'aller très, très vite pour que ça cogne.
C'est sûr.
Solide. Là. Alors, évidemment, le but, c'est pas de s'il y a de la tôle, pas si, mais il va y avoir de la tôle froissée, ça c'est sûr. Mais le but, c'est pas de préserver les voitures. Les voitures ont été acheminées sur l'autodrome pour ça, sur la piste. Pour ça, on le sait très bien qu'il n'y a pas personne qui va s'en sortir indemne. Mais c'est la pression, oui, elle est sur le copilote. Parce que mine de rien, c'est les indications les plus précises que tu réussis à transmettre à ton pilote. Alors, ça prend une espèce de chimie puis une communication. Puis, mine de rien, là, on se connaît pas encore. Là.
C'est la première fois que vous le faites?
Oui, c'est la première fois que je le fais. C'est la 31e édition et j'ai longtemps eu le goût de faire ça. Et pour mon baptême, ben, j'ai le privilège d'être porte-parole d'une fondation qui est absolument extraordinaire. Alors, c'est presque un rêve.
Mais c'est peut-être vous qui auriez dû d'abord faire un essai, justement, avec les yeux bandés.
Oui, mais en passant, il y a des pilotes qui vont prendre part, parce qu'il y a plusieurs voitures, et il y a des gens qui vont prendre le volant, les yeux bandés, et qui sont en compagnie d'un copilote, et qui devront suivre les directives, alors qui joueront le rôle et qui pourront s'imaginer de vivre le moment comme une personne non-voyante.
Ça, c'est
toute une expérience, ça aussi.
Ah, oui. Ah, oui.
Oui, on ne choisit pas n'importe quelle activité non plus pour aller dans une simulation de vie. On n'est pas dans une vie quotidienne. Donc, je veux dire, on demande à des gens qui, habituellement, se fient sur leurs yeux pour faire tout ce qu'ils peuvent faire dans une journée. On leur demande d'aller conduire une voiture. C'est pas un peu grand comme demande?
C'est extrême, hein? C'est
quand
extrême.
Même!
Le parallèle avec Mira est un peu drôle parce que, tu sais, je dis ça un peu grossièrement, là, mais c'est à peu près, je pense, la seule affaire qu'un chien d'assistance ne fera pas, conduire la voiture.
C'est vrai.
Et on fait cette activité extrême-là, c'est assez représentatif. Puis c'est vrai, vous avez raison de mentionner que c'est des trucs qu'on fait à tous les jours, nous, puis on finit par, tu sais, on prend ça un peu pour acquis, hein. On le fait, puis on fait pas comme, hey, j'apprécie donc bien mes yeux, tu sais.
Non, c'est vraiment pris pour acquis. Et c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et c'est ce que vous allez vivre, vous, mais aussi plusieurs autres personnalités publiques, même des commanditaires qui vont jouer le rôle de copilote. Qui va être là avec vous également?
Bien, on me réserve des surprises.
Ah, vraiment?
Ah bon? Oui, j'ai cru comprendre, deviner. Je peux le dire officiellement que Pierre Brassard va être là.
Ah.
Pierre Brassard qui lui a adopté un chien Mira qui a été déclassé. J'ai vu ça récemment et je l'ai vécu cette expérience-là. J'ai aussi eu un chien Mira. On a été famille d'accueil nous chez nous. Ma conjointe que j'ai rencontrée à l'époque avait déjà deux chiens dans leurs premières années de vie là, qui sont dans des familles d'accueil pour les socialiser. Leur faire découvrir le monde un peu, là. Tu sais, les chiens Mira qu'on traîne partout, là, avec le petit foulard, les bébés qui sont super attentifs. Mm-hmm. Alors, ma conjointe était comme ça, famille d'accueil à l'époque quand je l'ai rencontrée. J'avais déjà, moi, un chien. Alors, on s'est ramassé avec trois chiens. Il y en a un qui est retourné chez Mira et l'autre qu'on a gardé parce que justement, il a été déclassé lui aussi. Alors, on l'a gardé dans la famille et puis, bref, c'est une sacrée belle expérience. Alors, j'ai déjà eu un contact il y a 8 ans, un premier contact avec Mira par le biais de ça, là, d'être famille d'accueil. Et Pierre Brassard l'a vécu et continue de le vivre pour avoir adopté son chien qui a été déclassé. Alors, Pierre sera là vendredi soir, 18h, à l'autodrome de Granby.
Vous élevez combien de chiens par année? Vous en donnez combien de chiens par année?
Ben, moi, personnellement, aucun, mais Mira.
Non, Mira. Le porte-parole.
Parce que je ne voudrais pas que la ville débarque chez nous
pour vérifier la salubrité des lieux, ouais, c'est ça.
Voilà,
oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais chez Mira, mine de rien, bon an, mal an, là, la fondation en donne 200 par année à des nouveaux bénéficiaires. Alors, c'est moi, je trouve ça exceptionnel. Puis ces données-là, ces chiffres-là, je ne les connaissais pas avant d'être porte-parole. Et je trouve ça vraiment impressionnant parce que mine de rien, là, Mira s'autofinance, puis c'est qu'avec des dons du grand public que Mira réussit à former des chiens qui coûtent une fortune.
C'est 30 000 $ pour élever et entraîner chacun de ces chiens en moyenne sur 2 ans. C'est ce que Mira a investi, et tout ça grâce aux gens qui participent à l'autofinancement de Mira.
Ben alors, comment autofinancer? Comment de faire donner les gens à Mira?
Ben, en les sensibilisant avec des événements comme le Défi Vision vendredi soir. Et plus il y a de gens qui viennent voir. Oui, c'est spectaculaire. Oui, c'est y aura une ambiance festive. C'est drôle, à la limite. Mais
et ça fait du bien. Et ça fait du bien à tout le monde, puisqu'il y aura des chiens qui vont pouvoir être élevés. Et ça coûte combien pour y aller?
Ça coûte 32 $ pour assister à l'événement. C'est gratuit, par contre, pour les plus jeunes, âgés de moins de 17 ans, qui sont accompagnés d'un adulte.
Très intéressant pour les familles.
Ben oui, pour les familles, c'est parfait. Ouais.
Ben, je comprends donc, absolument. Alors, les familles de 6-7 enfants, là...
ça va pas leur coûter très cher, la soirée.
Donc, c'est 32 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Et les billets sont disponibles actuellement en ligne ou sur place à l'autodrome de Granby.
Oui, absolument. Ben oui, toute l'information est là en ligne, mira.ca. Et la page Facebook de Mira aussi, qui est pas mal active, sur laquelle vous allez retrouver pas mal d'informations. Et une page d'événements pour le Défi Vision Mira de vendredi.
Et
évidemment, on dit...
Oui, allez-y.
On dit, juste parenthèse, on dit que l'événement va être mis en cas de pluie, là, mais ça fait 2 semaines, moi, qu'à tous les jours, en me levant le matin... C'est la douche et la danse du soleil, et ça regarde très, très bien.
Mais c'est
pour
pas grave, ça serait une course dans la boue. C'est pas grave.
Oui, ça pourrait être autre chose, mais semble-t-il que sur terre battue, c'est il y a boue, et boue avec un B majuscule, et ça serait le boue avec B-O-U-T.
Là, je pense qu'on va commencer à penser au niveau de difficulté. Il va falloir mettre un peu des limites là-dessus. Mais effectivement, en cas de pluie, la course va être reportée au vendredi 10 août, si c'est le cas. Comment on espère remettre à la Fondation Mira avec cet événement-là?
Ben, je pense qu'on est en voie d'établir un record. Là.
Vraiment?
Oui. Je pense qu'on va être agréablement surpris. Le chiffre officiel, je ne pourrais pas vous le dire, là, ben franchement. Moi, en tant que porte-parole, je ne suis pas vraiment là pour un objectif. Je suis là pour le plus possible. Puis, on fait de notre mieux. Il y a toujours place à amélioration. Mais je pense qu'on... Tu sais, là, si ça tournait autour de 100 000, on serait content, me semble.
Ça serait formidable. Et pour y arriver, il faut aller donc sur mira.ca et s'inscrire pour aller à cet autodrome de Granby.
Qui aura lieu le 3 août.
Merci beaucoup, Patrick Benoît. À bientôt.
Ça me fait plaisir. Allez sur mira.ca, ou sinon, présentez-vous le soir même à l'autodrome de Granby.
Directement.
Les billets sont en vente à la porte aussi. Ben oui, absolument.
Parfait.
Bien noté. Merci, Patrick Benoît.
Merci à vous. Passez une belle journée.
Merci à vous aussi.
Squeeze it down.
On vient d'entendre Free the Animals de Sia, qui met bien la table pour cette chronique vegan de Sophie Lacombe. Bonjour Sophie.
Allô.
Ça va bien?
Ça va super bien, merci. Toujours contente d'être ici.
On est toujours contente de te recevoir parce que c'est tellement rafraîchissant et c'est informatif, cette chronique vegan-là. Mm-hmm. Mais peux-tu juste nous rappeler avant qu'on commence et qu'on aille plus loin dans ce monde qu'est le véganisme, c'est quoi la différence entre végétalisme et véganisme?
Oui, absolument. Donc, comme la semaine passée, on a discuté. Mm-hmm. Les végétariens, c'est les gens qui vont, par exemple, refuser de consommer de la chair animale, ce qui comprendrait normalement aussi les poissons, même si des fois, il y a un peu de confusion. Végétalisme, c'est une alimentation basée sur une alimentation végétale. Donc, en fait, les véganes sont végétaliens, mais le véganisme va plus loin dans le sens où c'est un mouvement, c'est politique, c'est social, c'est le refus complet de tout ce qui implique, dans le fond, l'exploitation animale, que ce soit par le divertissement, les cosmétiques, l'habillement et éventuellement, nécessairement, l'alimentation, parce que, comme je disais, on mange 3 fois par jour, donc on vote beaucoup avec les sous qu'on met, avec les choix qu'on fait pour notre alimentation.
Exactement. Donc, on parle vraiment d'un mode de vie qui dépasse notre mm-hmm. alimentation, mais qui l'inclut.
Absolument.
Également.
Et donc, je fais le lien. C'est Ryan Flanagan de CTV News nous apprenait le 25 juillet dernier que 10% de la population canadienne se dit végétarienne et à l'intérieur de ce 10%-là, des gens qui se disent véganes. Ça force l'industrie du restaurant puis de la
production. C'est rendu une personne sur 10 au Canada
qui
est végétarienne.
Oui, c'est une étude de l'Université de Dalhousie. Il y a 2,3 millions de personnes qui se disent végétariennes.
Wow.
Et juste pour vous donner un comparatif, il y a 15 ans, donc c'est quand même pas si loin que ça, il y avait seulement 900 000 personnes. Donc c'est comme
ça a triplé
une belle progression.
Oui. Ouais, ben presque, ben oui. Double, ouais.
Ouais, c'est
2,5, mettons.
ça va très vite. Hein. Mm-hmm. Et il y a 850 000 personnes qui se disent véganes. Donc ensemble, ça fait un 9,4% de la population canadienne, qui est égal à plus de 3 millions de personnes, ce qui est quand même considérable. Donc, les restaurants, les producteurs doivent s'adapter à cette réalité-là. Il y a des producteurs, par exemple, il y a une grosse chaîne de production laitière qui ont aussi la compagnie Silk, les laits végétaux. Donc, il y a comme ce genre de changement-là qui se fait. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de restaurants parce que, en fait, là, dans ces statistiques-là, pour revenir là-dessus, c'est les gens qui sont en bas de 35 ans qui sont le plus végétariens
oui,
et vegan.
Bien sûr, c'est vrai.
En ce sens-là, c'est très positif. Ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, ils vont être à même d'éduquer leurs enfants avec ce même mode de vie, ces mêmes valeurs politiques et sociales-là. Et on risque donc de voir une grande progression, une grande croissance de personnes végétariennes.
Ça va être une nouvelle
végane.
Génération avec
oui.
des valeurs absolument complètement différentes.
Absolument. Et mm-hmm. moi, ça fait presque 9 ans que je suis végane, je vois un changement majeur dans les offres de restaurants. Par contre, je suis un peu tannée de manger le burger végé qu'il y a dans tous les restaurants.
C'est
parce
ça.
Que parce c'est que c'est la seule option.
Mais c'est vrai, ça. Oui. Parce qu'on se dit, OK, je suis maintenant... Puis on en a parlé aussi la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, hein, de cette idée-là où on se dit, ouais, mais je suis flexible parce que socialement, j'aimerais ça continuer à rester fonctionnel. Puis le mm-hmm. motadine de végé burger, maintenant, on est tannée.
Bien, absolument. Puis moi, comme je disais, les gens qui me connaissent, je suis une foodie, si je peux utiliser l'anglicisme. J'adore manger, j'adore faire à manger, j'adore aller au restaurant, les terrasses. Je suis de la banlieue et je me déplace à Montréal souvent pour aller dans les restaurants parce qu'à Laval, ça commence tranquillement pas vite, mais on n'a pas autant d'options qu'à Montréal. Par contre, je rassure les gens, il y en a de plus en plus, même en région. Il y a un restaurant maintenant, par exemple, à Rivière-du-Loup, qui vient d'ouvrir, qui ont gagné le prix de la meilleure poutine comparé à des poutines pas vegan. Là. Donc, ouais. Il y a des. C'est vraiment. Ça pousse un peu partout, sur la rive nord, la rive sud. Aujourd'hui, je vais vous parler de restaurants plus dans la région de Montréal parce que c'est ce que je connais un peu plus. Par contre, il y a le site Internet qui s'appelle happycow.net, donc vacheureuse.net, qui nous indique par région, code postal, même avec le GPS, ça fonctionne. Et je vous dis, là, moi, je suis allée en voyage en Europe, les villes sont inscrites. Je suis allée en voyage au Costa Rica, les villes sont inscrites. Et ça fonctionne par la participation des gens. Donc, si vous allez dans un restaurant qui a des options véganes, végétariennes, vous pouvez
c'est
le rentrer.
C'est un peu le Trip Advisor du vegan.
Exactement, exactement.
Oh, et je rappelle que c'est le happycow.
Oui.
Point net.
Exactement. Donc, les restos véganes, les restos végé, les épiceries aussi, parce qu'il y a des épiceries véganes. Il y a des épiceries, par exemple, bio-santé qui vont offrir une bonne variété de produits véganes. Alors, moi, c'est mon petit outil parce que partout où est-ce que je vais...
Et à travers le monde.
Absolument, exactement.
Et tu nous parles aujourd'hui, oui, de sorties de restaurants pour ceux qui seraient inquiets de toujours retomber dans les mêmes affaires ou qu'il n'y ait pas de choses qui leur sont offertes. C'est faux. Et non seulement ça, mais tu as déniché des restaurants qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Absolument, c'est très important pour moi. Moi-même, j'ai une limitation fonctionnelle. Je ne suis pas en fauteuil roulant, mais je peux très bien comprendre pour avoir été en fauteuil roulant à certaines occasions dans ma vie, pour avoir des amis autour de moi. C'est une nécessité et je pense que c'est une difficulté à Montréal de rendre les trucs accessibles. Donc, j'ai fait une petite recherche pour voir et des restaurants véganes que j'aime beaucoup, que j'ai essayé moi-même, et des restaurants qui sont accessibles pour les fauteuils roulants.
Et donc, grâce à toi, nous n'aurons plus aucune excuse.
Exactement.
Nous prenons papier et crayon et nous t'écoutons avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Oui, et comme je vous dis, j'aime la nourriture. Vous allez bien le voir quand je vais parler des restaurants. En fait, je vous parle en premier lieu de Vegano. C'est quand même nouveau comme restaurant. Ça fait, je pense, quelques années. Je ne suis pas très bonne avec la temporalité des choses, mais c'est la cuisine italienne. Donc, ce n'est pas un truc grano du tout. Là. C'est des très bonnes portions, super savoureuses. Et c'est le seul resto vegan à porter votre vin. Et on aime ça. On aime ça.
Est-ce que je peux me permettre une question
pour
toi, Sophie? Parce que là, tu viens de parler de vin. Tu viens de parler que c'était pas grano du tout. Et j'ai une question qui fait mal, qui tue, comme
je dirais. Je suis prête.
Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on a parlé d'excès alimentaire de l'été avec François, notre médecin qui tient à cœur notre santé. Et là, on s'est dit, ben, pour pallier au sucre et au gras des excès alimentaires de l'été, on va parler véganisme tantôt avec Sophie, mais est-ce que manger vegan est synonyme de manger santé?
Non. Ouh. Mais oui, mais non. C'est pas tout noir ou tout blanc.
On peut se faire des desserts
qui
sont riches.
Comme je vous ai dit, vegan. La poutine, tous les repas, tout ce véganisme maintenant, parce que les produits sont tellement accessibles. Pour vous donner une idée, moi, je fais des vols au vent vegan à la maison.
Voilà.
Donc, par contre, c'est sûr que pour la santé, l'alimentation végétale est de loin meilleure parce qu'on évite, les mauvais gras, le cholestérol. Ouais. Mais je pourrais être végane et manger des pâtes puis des frites à longueur de journée aussi. Donc,
parce que les frites, c'est vegan, on c'est se comprend. Ça. Mais c'est vrai, dans l'huile d'olive, ça se frit, c'est génial.
C'est ça, exactement. Puis pour vrai, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se prive dans la vie. Je mange énormément de légumes parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est sûr que c'est mieux au niveau des vitamines, des fibres, des minéraux. Il y a plus d'options.
Donc, on a plusieurs options. Il y a des restaurants qui nous permettent de continuer à se gâter.
Absolument.
Et qui sont accessibles. Continuez à ce moment-là parce qu'on a vraiment de moins en moins de raisons de ne pas essayer.
Si vous saviez ce qui se découvre dans les restaurants, moi, j'ai découvert des choses incroyables en mangeant dans les restaurants. Donc, le Vegano, ils ont des escaliers, mais ils sortent une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Donc, il faut juste les aviser
les appeler,
d'avance.
Ouais.
Exactement. Et je vous dis, c'est les brunchs pendant la semaine. Et les soupers, c'est seulement le vendredi. Et le propriétaire est super sympathique. Les prix sont raisonnables.
C'est très bon. Hein?
Ah, c'est vraiment... Moi, on adore ça.
Ouais.
Copper Branch, plusieurs succursales partout à travers... peut-être pas partout à travers le Québec, mais maintenant, il y en a à Québec. Il y en a
deux
à Laval. Oui, c'est des franchises et c'est très populaire parce que ça grossit de façon vraiment exponentielle. Certaines succursales sont... accessible. Donc, je vous suggère simplement d'appeler avant. Celle au Carrefour Laval est accessible. Celle à côté, le nouveau à côté du métro Montmorency est accessible aussi. C'est ce que je connais à Laval. Sur Sherbrooke, près du métro Vendôme, il y en a une aussi qui est accessible. Donc, simplement d'appeler. Je vous dis, il y a à Laval le 57 Cal, 57 Cal's, qui n'est pas un restaurant vraiment pour s'asseoir et manger, c'est bien, mais il y a quelques petites tables. C'est plus un comptoir, mais il n'y a pas de salle de bain. Par contre, c'est accessible. Et si vous voulez, par exemple, Vous allez dans un potluck, on vous demande d'apporter des trucs vegan. Ils font des super beaux plateaux diversifiés avec des falafels, des shish taouk, des shawarma, tout vegan.
C'est un peu notre M&M vegan.
Ouais, oui, c'est vraiment c'est super savoureux.
Génial!
Je vais rapidement. Invitation V dans le Vieux-Port maintenant. Ils ont déménagé, donc avec alcool aussi, si vous aimez prendre un bon verre de vin. C'est plus haut de gamme. C'est accessible et les salles de bain sont accessibles aussi. Donc, très important.
Comme ça, surtout si t'en apportez votre vin, on risque d'avoir besoin d'y aller.
On reste un peu plus longtemps dans ce genre
c'est
de restaurant-là.
Ça,
oui. Il y a le Gusta au marché Jean Talon. Il est accessible, sauf pour la salle de bain, par contre. Vous pouvez acheter, c'est plus un petit comptoir, manger des sandwichs, ils font des trucs comme ça. Et les produits peuvent être achetés là aussi. Et ça se trouve en épicerie. Donc, ils ont des saucisses, des fromages, des pains de 7 ans, même pour les tourtières dans le temps des fêtes. Je vous dirais, il y a le Vego aussi, qui est un buffet végétarien avec beaucoup d'options véganes et sans gluten. Où il faut appeler avant. Pour que ce soit accessible, on peut passer par l'extérieur. Chuchai aussi, ça c'est vraiment à essayer parce que c'est des viandes végétales très savoureuses et tout ça. Tout est super accessible.
Et Sophie, je rappelle que toutes ces belles succursales propositions se retrouvent sur le happycow.net. Exact. Et on te retrouve pour un tome 3 quand même de la chronique vegan.
Absolument.
Tu nous reviens.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment.
Un gros merci.
Vous écoutez Aime l'été.
À Canal M, vous écoutez Aime l'été. Nous sommes en présence de Emmanuel Robitaille.
Toujours là. Et de François Baruel, bien sûr. À venir à l'émission, François. International comme chaque semaine et on va terminer sans beauté
avec Daniel Lachance. C'est sa chronique musicale.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol. Alegria de coió é curtir o verão.
Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió é curtir o verão.
Dê, 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 dê.
Hey!
Nous écoutions Sergio Mendes, Magalena.
Alors, et non pas la Macarena.
Non pas la Macarena.
À ne pas confondre, bien sûr.
Alors Emmanuel, les journées nationales, mondiales et internationales de la semaine maintenant, où est-ce qu'on en est?
Eh bien, on sait qu'on aime ça être thématique. Cette chanson-là n'a pas joué pour rien, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous allez comprendre à l'heure. Mais on va commencer quand même par souligner rapidement, mais quand même, qu'aujourd'hui, c'est la journée international de la frite belge.
Oh, ça, j'adore ça.
Donc, pour être dans... T'adores ça?
Ben écoute, belges, bien sûr.
C'est comme... Tu sais, quand un aliment a droit à sa journée internationale, c'est que sa réputation est clairement faite. Mm. Donc, dans tout l'excès et toute l'alimentation qui est présente dans l'émission aujourd'hui, on pouvait pas ne pas le nommer. Mm. On pouvait pas le passer sous silence. Mais ceci étant dit... Parler d'un autre type d'alimentation qui est célébré, non pas seulement aujourd'hui, mais plutôt cette semaine, donc la semaine du 1er au 7 août, et qui est la niche de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé, on s'en doute. C'est pas avec une grande surprise. C'est avec les engagements du World Alliance for Breastfeeding Action et du mouvement Allaitement du Québec, le MAC. Cette semaine veut bien sûr encourager l'allaitement maternel et améliorer la santé des nourrissons du monde entier. Et cette semaine commémore la déclaration d'Innocenti signée en août 90 qui visait à protéger, promouvoir et encourager l'allaitement, une initiative de l'OMS, de l'UNICEF, de plusieurs responsables politiques et plusieurs organisations également. Cette année, le mouvement Allaitement du Québec, le MAC, lance cette semaine particulière sous le thème « L'allaitement, la base de la vie ». D'ailleurs, l'OMS recommande l'allaitement dans l'heure suivant la naissance et pendant les 6 premiers mois pour assurer l'apport en nutriments maximal qu'un nouveau-né peut requérir. Et l'OMS ajoute qu'avec l'introduction d'aliments solides, l'aliment... Oh, François, toujours tellement populaire pendant l'émission! Et l'OMS ajoute qu'avec l'introduction d'aliments solides, l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans est indiqué. L'OMS et l'UNICEF dirigent leurs efforts cette année au soutien des mères afin qu'elles puissent procéder à l'allaitement dans les conditions idéales citées plus haut, puisque le pot à pot et la tétée dans la première heure de vie du nourrisson stimulent le lait maternel et le colostrum, également appelé premier vaccin du nourrisson, vu sa composition extrêmement riche en nutriments et en anticorps, on ne peut pas dénier. Donc, pour ce faire, les organisations ont prévu de soutenir l'allaitement avant la naissance, donc 3 moments distincts très importants. Avant la naissance, par la discussion et l'information sur le processus. Lors de l'accouchement, donc en favorisant le pot à pot, en aidant à déceler les signes que l'enfant est prêt à téter et comment placer le sein aussi, parce que c'est pas quelque chose avec quoi on vient pas avec un manuel de ça. Là. Ça a l'air bien facile comme ça, mais tu sais, on s'entend que c'est des techniques qui peuvent aussi également faciliter beaucoup le processus et également au retour à la maison pour donner confiance à la maman qui expérimente l'allaitement, surtout quand c'est la première fois, bien sûr, calmer les inquiétudes et résoudre les problèmes éventuels afin que ce soit une expérience qui est positive, oui, pour tous. Le mouvement Allaitement du Québec ajoute que l'allaitement, c'est une façon de contrer la pauvreté également.
C'est-à-dire?
Parce que cette façon de nourrir l'enfant là, dès sa naissance, c'est une façon qui est naturelle et extrêmement économique.
On
se comprend. Donc, c'est une façon de contrer les difficultés financières que plusieurs familles peuvent vivre en tentant d'alimenter la famille au complet. Par contre, c'est à noter que, bien que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, la SMAM, soit du 1er août au 7 août de manière générale, en Amérique du Nord, par contre, et donc pour nous, c'est plutôt du 1er au 7 octobre qu'elle est soulignée. Et je tiens pour m'en dire en tant que femme que oui, l'allaitement est extrêmement bon et qu'il faut faire attention de ne pas dépasser la limite dans les capacités et les désirs individuels des femmes, par contre.
Pourquoi? C'est-à-dire?
Bien, j'ai plusieurs amis qui ont accouché. Moi, je suis une non-maman, j'ai des chats, mais ça ne compte pas. Et on entend beaucoup parler de justement que c'est tellement... Non, ça ne compte pas, en tout cas pas dans ce sujet-là. Et c'est vraiment... il commence à y avoir beaucoup de pression parce que c'est vrai que c'est extrêmement bon d'allaiter son enfant. Par contre, des fois, on a de la difficulté, voire une incapacité. Et ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans la culpabilisation et de forcer ces mamans-là à le
faire. Bien sûr,
oui. Et des fois, il y a des personnes qui dépassent ces limites-là. Donc, en respect à toutes ces femmes, de dire que continuer à y penser à ça et de rester sensible.
Et c'est vrai que quand il y a une incapacité, la mère a du mal à accepter cette histoire d'incapacité et à passer un allaitement différent, c'est-à-dire avec un lait maternisé.
Exactement. Donc, vraiment, d'aller dans les deux côtés de la médaille, de ne pas oublier aucun acteur dans ce qui est de l'allaitement pour l'enfant et d'y aller dans un respect, dans une empathie.
Tout à fait.
De rester à l'affût de ça. Ouais. Et là, j'arrive avec cette journée qui nous a valu cette chanson de Sergio Mendes qu'on a écoutée un petit peu plus tôt. C'est la journée mondiale du capoeiriste, le 3 août, donc vendredi. C'est quoi un capoeiriste?
C'est quoi ça?
Ah, c'est ça. Un capoeiriste. C'est quelqu'un qui pratique le capoeira. Tu me vois venir. Mais c'est quoi du capoeira? Le capoeira, c'est un art martial qui nous vient du Brésil et qui est un mélange de danse, de musique et d'autodéfense. Moi, j'ai un ami, salut Christian, d'ailleurs, je te salue, qui m'a initié, non pas que j'en ai fait du capoeira, mais qui lui en faisait et qui m'a initié à des spectacles de capoeira. J'ai trouvé ça absolument fantastique. C'est un art martial qui était utilisé par les esclaves pour déguiser le fait qu'ils s'entraînaient à se battre.
On pourrait peut-être imaginer le tai chi en musique.
Donc, on le pratique en cercle, en fait, accompagné d'instruments, de chants. Il y a seulement que les pieds et les mains qui peuvent toucher par terre. Et la date choisie pour souligner mondialement cette forme d'art fait écho au 3 août 1985, date à laquelle le gouvernement de l'État de Sao Paulo a créé la loi 46-49 concernant le capoeira. Et donc, au début, c'était une initiative purement brésilienne. Et avec le temps, cette danse-lutte, qui fait une activité absolument complète et qui fait travailler l'ensemble du corps, est pratiquée dans tous les pays du monde et est le premier vecteur de la pratique de la langue portugaise. Et ses bienfaits sont exceptionnels et vraiment nombreux. On travaille les réflexes, la flexibilité, le cardio et également l'équilibre. Donc, si vous venez de découvrir quelque chose, François.
Mais tu ne crois pas que c'est à cause du Brésil? Parce que tout est en musique au Brésil.
Mais oui!
Donc, c'est normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. On pourrait faire du tai chi en musique.
Exactement.
Même
mais
ça serait super.
Fait,
ça,
mais
ça.
Moi, de toute façon, tu sais que je ferais tout en musique.
Toi, oui, ça, je le sais.
Moi, je veux dire, la musique serait dans toute activité, toute chose, et ça conviendrait ici. Mais si c'est quelque chose, justement, qui vous fait vibrer ou qui vous rend le moindrement curieux, je vous invite à le rester puis à chercher dans votre secteur des cours, des ateliers, des regroupements de capoeira. C'est vraiment un art qui est puissant, qui est extrêmement beau. Avoir. Et si au contraire, vous n'êtes pas de type sportif du tout, peut-être que la journée du 3 août sera vous satisfaire autrement parce qu'elle est également la journée mondiale de la bière.
Oh mon Dieu!
C'est une idée qui a vu le jour en 2008 par 4 Californiens qui ont décidé que ça allait être cette journée-là et ça a pris seulement 3 ans, soit en 2011, pour que cette journée-là soit célébrée dans 23 pays et 138 ville, oui, idée qui fut adoptée extrêmement rapidement, disons-le, et la bière est le breuvage le plus consommé au monde après l'eau. Donc, disons, le breuvage alcoolisé le plus consommé au monde et également le plus brassé dans le plus grand nombre de pays et existant depuis l'Antiquité. Le palmarès mondial met la République tchèque en premier avec 160 litres par habitant par année, et bien que le Canada se glisse en 25e position, on n'aura pas moins droit au Festibière de Québec qui aura lieu du 16 au 19 août prochain.
Tu sais d'où vient le nom de Budweiser?
Vas-y.
Budějovice. C'est une ville, justement, en Tchéquie.
C'est vrai!
Et Pilsner, c'est une ville. Pils. Et ben, c'est la méthode. Voilà.
On en apprend tous les jours.
Ouais, c'est la... Thank you.
Till that morning, there's nothing can harm you. Yeah, sweet daddy and mommy, standing by.
Le timbre inimitable de Louis Armstrong. Ben, inimitable. Certaines personnes osent prétendre qu'elles imitent bien Louis Armstrong, mais bon, c'est un duo avec Ella Fitzgerald et qui reprenait Summertime.
Je tiens à dire que c'est de moi que parle Jean-Sébastien Emmanuel Robitaille au micro et qu'il n'a jamais entendu cette imitation que je prétends faire. Un jour, peut-être, la ferai-je à micro.
Mais bien de préciser inimitable.
Oui, mais effectivement, et c'est un duo qui est également inimitable.
Oui,
ces deux-là ont été pairés souvent. La chimie opérait.
Mm-hmm.
Et c'est un titre, Summertime, qui... On ne le sait pas si c'est un reflet.
Ben oui, effectivement, ouais, c'était mon choix.
Juste.
Étant donné qu'on parle de musique d'été, Daniel Lachance, en passant, je ne m'avais pas présenté. Hein.
C'est Jean-Sébastien qui m'a tout décontenancé.
Ben oui, on va mettre ça sur le dos, Jean-Sébastien.
Mais c'est toujours la faute à Jean-Sébastien.
Donc, c'est mon choix.
Ben oui,
parce
Daniel.
Que, étant donné qu'on parle de musique d'été, dans ma liste, celle-là faisait partie. Puis je me suis rendu compte, en fait, que même si ça s'appelle Summertime, quand on écoute ça, d'après les discussions qu'on a eues depuis le début de la saison, ça évoque pas vraiment l'été, ça. Quand on entend cette chanson-là, à part le mot « summertime », on trouve pas que c'est vraiment une musique d'été.
Et cette version-là est une des 199
ouais,
milliards
beaucoup.
De versions de cette chanson-là. Et aucune d'entre elles ne fait vraiment été, là, que tu écoutes Janis ou Norah Jones ou... Je ne suis pas capable de faire le tour, mais là, Jean-Sébastien est en doute. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont être un peu
chercher
plus
la liste.
Hyper. Ben, mais non. Il reste quelque chose de très mélancolique, oui, d'imprégné dans le texte.
Les seuls extraits qui me font penser à l'été dans ça, c'est... Il y a les Beastie Boys qui avaient repris un sample de Summertime and the Livin's Easy sur leur premier album, je crois. Puis cet échantillon-là a été repris aussi par le groupe Sublime. Donc, ces utilisations-là font été, mais sinon, la pièce intégrale, totalement d'accord.
Oui, et d'ailleurs, c'est tiré de l'opéra Porgy and Bess, qui raconte la vie des Noirs aux États-Unis. Et c'était pas très joli, c'est une vie de misère, tout ça. Et d'ailleurs, à l'époque même, on en a discuté un peu tantôt, c'était un sujet qui était encore d'actualité, mais déjà à l'époque, les auteurs, dans le fond, la musique avait été composée par Ira Gershwin et les textes par son frère George Gershwin et un autre qui est un monsieur Dubose. Et ils avaient été critiqués parce que ça racontait la vie des Noirs, mais racontée par des Blancs. Donc, je ne sais pas si ça vous
on
fait penser.
On parlait d'appropriation culturelle.
Oui, ça fait penser un peu à ce qu'on vit aujourd'hui.
Ah oui.
Avec le festival de jazz qui est arrivé aussi avec, sur le plan cinématographique avec les Premières Nations, le peuple autochtone qui est très effervescent sur le plan cinématographique, mais qui malheureusement est sous-représenté, qui ça crée des ravages et des vagues actuellement.
Et contrairement à aujourd'hui, un fait que j'ai trouvé ici qui est intéressant, je n'irai pas trop longtemps là-dessus, là, mais... Aujourd'hui, on parle des pièces qui ont été montées, mettons, par M. Lepage et certaines personnes auraient aimé participer. À l'époque, on avait vu le contraire.
T'es diplomate. Avait... Je salue ta diplomatie.
À l'époque, on avait vécu le contraire parce que dans les années 50, il y avait eu une adaptation cinématographique de Porgy and Bess. Et l'acteur très connu, Sidney Poitier, acteur noir très connu, avait refusé de jouer dans le film.
Vraiment?
Oui, mais un certain monsieur Goldwyn, de la métro Goldwyn-Mayer, l'avait forcé, je ne sais pas de quelle façon, avec quelle menace, mais finalement, l'avait forcé à participer. Donc, c'est un petit peu l'inverse
de ce qu'on s'attendrait, disons-le, là, comme
oui,
ça. Là.
Oui, mais je pense que lui contestait effectivement la version. Il trouvait que c'était pas vraiment raconté par des Noirs. Donc...
Il y avait ce côté-là en lui qui était un petit peu perverti. Mais exactement, je comprends. Mais pour revenir à ce thème-là dont tu nous amènes à chaque semaine dans cette musique d'été qu'on essaye encore...
De définir.
Qu'on essaye fort de définir en regardant le tempo d'une chanson, les instruments utilisés, la mélodie ou encore le texte. Ici, on se rend compte que même si on parle d'un temps d'été, summertime, c'est vraiment pas...
On
n'identifie
pas ça comme une chanson d'été, hop, la vie.
Mais je me dis, parce que la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, on a parlé de cette fameuse chanson qui est Summer Night d'Olivia Newton-John et de John Travolta.
Et non pas Elton John,
comme j'avais rapidement écrit. Summer Night, et on s'était mis à parler justement de ces amours d'été-là et de ces... Bon. Et là, je me dis à quelque part, puis depuis le temps qu'on parle aussi qu'au Québec, l'été, elle est là pas longtemps, elle revient... pas rapidement non plus. Et on parle d'amour d'été. Est-ce que ça se pourrait que Summertime soit un exemple que l'été peut amener de la mélancolie et de la tristesse dans des souvenirs et dans des événements qui s'y passent, là?
Oui, bien, j'imagine que oui. Je voulais pas aller là, mais effectivement...
Mais non, mais crime!
Pour certaines personnes, oui, ça peut être la mélancolie d'avoir déjà connu des amours d'été... Peut-être que des trucs qu'on aimerait revivre et qu'on ne revivra jamais, on ne sait pas. Peut-être que c'est ça le côté mélancolique là, de ce summertime.
Parce que quand on écoute Summertime, clairement, il s'est passé quelque chose dans cet été-là qui était loin de la joie. Et Lana Del Rey aussi. J'ai trouvé un extrait de Lana Del Rey. Je me dis, c'est vrai que les gens parlent de l'été avec des fois une blessure profonde. Et c'est le cas de Summertime Sadness qu'on va écouter un extrait tout de suite. Ça t'égaye pas,
Non, d'ailleurs, les mots « summertime sadness », ça parle beaucoup, là.
C'est mélodique, ouais, ouais. C'est doux à l'oreille. Mm-hmm. C'est pas la joie incarnée.
Non, non, exactement. Ça ne rayonne pas. Hein.
Donc, ça ne ressemble pas aux chansons d'été, la définition qu'on s'était donnée.
Et au Québec, parce que là, on est encore sur l'aspect, on parle d'été, on parle de paroles, de textes. Plus près de nous, au Québec, il y a une chanson extrêmement populaire qui a marqué notre histoire musicale qui reflète ce dont on parle actuellement. On va l'écouter.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier?
T'sais,
oui.
Summer Night a mal fini, clairement, genre.
Oui, mais d'ailleurs, elle dit l'été qui s'achève. Hein. C'est pour ça que c'est triste aussi. Si ça commençait, probablement que ça serait plus drôle. Mais
c'était peut-être très bien, le summertime, pour lui.
Probablement.
En fait, c'est la fin qui est mauvaise.
Ah, c'est bien dit, ça.
Oui, oui, donc l'été qui s'achève, c'est là que c'est triste.
Fait
que
c'est
pendant
pas l'été,
le reste de l'été, c'était drôle.
Ben oui.
C'est parce qu'on n'a pas...
Dans le fond, il a chanté Darling au début de l'été.
Oui,
voilà.
C'est ça. On n'a pas capté le début. Là. On a capté seulement la fin. Et là, je voulais aller avec ça, justement, c'est qu'une autre chanson qui a presque le même titre, qui s'appelle « In the Summertime », qui est sortie en 1970. Et celle-là, ça sonne beaucoup plus été, à mon avis.
In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind.
Et voilà. Ça sonne plus été, ça?
Oui. Ben oui.
Je trouve, nettement, oui.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on conclut, en tout cas, on arrive à une évidence indéniable que c'est pas le texte
c'est
qui va faire une chanson d'été.
Souvent, c'est ça. Selon notre perception, en tout cas. Ce qu'on perçoit de l'été, c'est que c'est quelque chose souvent de plus léger, de plus...
Mais là, il y avait du banjo. Plus... Moi, à date, le banjo, la mandoline, ouais. Ces choses-là sont très gagnantes.
Oui.
On n'a pas calculé le tempo. Hein. C'est des chansons à tempo. On n'a pas regardé ça. Ah, mais clairement, les paroles sont éliminées grâce à toi, Daniel Lachance. Ouais. On s'en va vers...
Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose d'important. T'as dit, quand tu as parlé d'instrumentation, banjo, tout ça, peut-être qu'à la prochaine émission, je pourrais vous amener une chanson qui a été un grand succès disco à la fin des années 70, avec une autre version qui est jouée différemment, qui sonne pas mal plus été que
on a
disco.
Très hâte. Merci, Daniel. Merci, François.
Merci, Emmanuel.
Merci, Jean-Sébastien, à la régie. Merci, Clotilde Seille, à la réalisation. On revient demain à midi pour un autre M l'été.